La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancée un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous à un épisode très riche. Avec Cyril Gaïtella, on a parlé de l'importance du tempo, d'obsession, d'apprentissage dans la défaite, de transmission, de remise en question, de formation et de soif de l'effort, entre autres. Bref, plein de sujets aussi essentiels que passionnants et que Cyril a abordé avec beaucoup de transparence. Champion de France du dessert en 2017, il y a quelques années, Cyril a ouvert sa première boutique, Zest, à Neuilly-sur-Seine, et plus récemment, une seconde à Charenton-le-Pont. Et il nous en raconte toute l'histoire. Et je terminerai cette petite introduction par une citation de Cyril sur laquelle je vous laisse méditer. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Au menu de cet épisode, l'importance de trouver le bon tempo, son fonctionnement par obsession, et enfin l'histoire de son dessert transmission. Bonne écoute! Bonjour Cyril!
Bonjour!
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien.
Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la première question que je pose à tout le monde, c'était quoi toi, ton dessert préféré quand t'étais petit?
Dessert préféré quand j'étais petit... Je pense que c'est la tarte aux pommes. Truc bateau, ouais. Très simple, mais
que tout le monde
tellement,
a...
ouais, tellement efficace en fait. Et on a tous des marqueurs différents par rapport à, aux personnes qui l'ont fait. Et paradoxalement, je vais faire rebondir tout le monde, mais c'est la tarte du McDo, quoi. On l'avait à l'époque, l'apple pie chaude, ouais. On mangeait, on se brûlait les lèvres. Et vraiment, c'était une vraie gourmandise qu'ils ont enlevée après. Après j'ai basculé plus sur la tarte tatin parce que j'ai appris à la découvrir. Mais vraiment, si maintenant on va aller dans un truc prisme des saveurs, vraiment le démarrage, premier truc qui me revient en tête, c'est la tarte aux pommes du McDo qu'on a eu la chance de connaître dans ma génération.
Et que t'aimerais bien remanger aujourd'hui. Enfin, genre, si il l'a refait, est-ce que tu irais la manger ou pas?
Si je la remange. Si j'ai aucun souci là-dessus. J'ai pas de complexe là-dessus. J'adore parce que je sais distinguer en fait les deux choses. Le plaisir régressif qui me rappelle et ramène en enfance avec des souvenirs qui sont associés avec des produits qui maintenant, quand je les goûte, je vais sentir que c'est trop sucré, ouais. Que c'est mal équilibré, que c'est trop gras, etc. Je vais le sentir, mais en fait, ça va pas me déranger parce que ça me replonge en enfance. Donc à partir du moment où on vient dans ce plaisir régressif, on oublie tous ces facteurs-là qui sont des facteurs vraiment purement professionnels.
Oui, exactement. Non, on est bien d'accord, hein, les souvenirs d'enfance, l'idée c'est pas de se dire que c'était les meilleurs desserts.
Mister Freeze, on bouffe des bonbons, enfin on a pas de problème quoi. On me donne un Kinder Bueno, je le tue.
Oui, c'est ça, tout le monde aime encore ça aujourd'hui.
Je sens tous les problèmes, je sens pas la noisette, je sens rien, mais je le mange, j'adore.
Et ça fait toujours plaisir, c'est toujours un peu...
Oui, parce que ça nous ramène en enfance et plus on vieillit, plus on en a besoin.
C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi?
Dessert parfait, je vais dire, ça dépend en fait. Dessert parfait, moi en règle générale, j'aime bien les choses un peu acidulées. Donc, je dirais plutôt des choses, des sorbets citron, des choses assez simples. Ou la tatin, c'est vraiment un produit que je fais assez fréquemment parce que je trouve que c'est vachement vraiment intéressant parce qu'on a le côté gourmand. Et en plus, on peut l'associer avec un produit glacé, avec... plein de choses différentes. Je trouve que ça fait toujours plaisir. On a la gourmandise, on a la fraîcheur de la pomme, on peut jouer. Je trouve que c'est un dessert quand même hyper efficace.
Et du coup, outre le dessert d'enfance, c'est quoi une bonne tarte tatin?
Une bonne tarte tatin, c'est du beurre, du sucre et des pommes. Et si on peut mettre un bon feuilletage bien caramélisé, bien toasté, surtout bien cuit, ben voilà, c'est du bonheur. On se rajoute là-dessus une crème épaisse, un peu acidulée, et c'est top.
Est-ce que il y a une, enfin, y en a forcément une, c'est quoi plutôt du coup la saveur qui t'évoque zeste?
Zeste, c'est l'acidité
Forcément.
Et l'amertume.
Et pourquoi t'as choisi ce nom justement? Quel était un peu le projet de départ et...
Alors déjà, il faut savoir que je suis un grand passionné des agrumes. C'est vraiment une passion que j'ai découvert avec un ami hein, qui s'appelle Damien Blasco, qui m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup d'agrumes différents quand il a commencé à fonder son petit jardin d'agrumes qui maintenant a beaucoup évolué. Et du coup, il m'a fait découvrir beaucoup d'agrumes. Et comme je suis quelqu'un assez jusqu'au boutiste, quand je me plonge dans quelque chose qui me plaît, j'ai des phases... J'ai eu une phase du poivre où j'ai goûté quasiment tous les poivres que je pouvais, qui pouvaient exister. J'en faisais venir du quatre coins du monde. J'ai fait pareil sur la vanille. Et les agrumes, c'est vrai que j'ai pas réussi encore à avoir la soif de tous les découvrir parce qu'il y en a tellement et tellement qui se créent, qui se découvrent. Donc, ça a été vraiment ça. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que l'idée de Zeste, en fait, c'est pas seulement de faire une boulangerie, c'est de faire pas un réseau de boulangerie, mais une équipe de boulangerie. Quand je dis ça, c'est chaque boutique a une singularité. Chaque boutique a pour vocation de développer quelqu'un au sein de cette équipe, au sein de cette boulangerie, pour après transmettre le relais. Et exactement un petit peu comme le fait les agrumes, où on va faire du bouturage, et voilà, et on va donner des nouvelles saveurs, etc. Donc il y a une singularité. Ici, on a zeste citron vert. La première, c'est zeste citron jaune. Donc voilà, on va commencer à s'amuser un petit peu là-dessus, et je trouvais que ça coordonnait bien. Et après, il y a une chose qu'on oublie un peu, mais c'est, pour moi, la chose la plus importante, c'est le goût. Ça doit être bon. Ça doit avoir des arômes. Et on oublie un peu trop souvent, mais dans les agrumes, c'est dans le zeste qu'est l'arôme.
Effectivement, donc il y a plein de choses finalement derrière zeste.
Oui, après, il y a eu des dossiers un peu commerciales.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que souvent, quand on voit une boulangerie, on a des centaines, des milliers de boulangeries. Et j'ai remarqué qu'on voit toujours les premières lettres. On retient jamais le nom en entier. Et après, si on cherche un peu sur Internet, on cherche par les premières lettres. Alors souvent, c'est des A. Oh, et alors là, on est là, la ville, on sait à peu près où on était, on cherche, et on trouve pas. Zeste, comme c'est Z, il n'y en a pas beaucoup. Voire, on est les seuls. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile à retenir. Et on a mis 4 lettres, on l'a mis à l'anglaise. C'est pas pour un projet d'aller à l'international, c'est juste que fonder son entreprise, c'est un peu un nouveau bébé. Et moi, tous mes enfants, ils ont 4 lettres.
Ah, c'est vrai?
Ouais, mon fils s'appelle Eros, 4 lettres. Ma fille, elle s'appelle Iris, 4 lettres. Donc, Zeste, c'est 4 lettres.
Trop bien! Je trouve ça trop mignon cette dernière partie où du coup ça complète aussi tout ça.
Ouais, bah de toute façon c'est un petit peu ça quoi.
Non mais complètement. Du coup t'as dit, dès le départ tu l'as pensé aussi en te disant chaque boutique aura un peu une identité, enfin quelque chose qui sera développé plus.
Ah oui, de toute façon le but c'est 70-30. Il dit 70% de commun et 30% de différent.
Ok.
Donc c'est vraiment le but parce que une boulangerie on l'oublie trop souvent et c'est justement pour ça que j'aime pas ce concept de chaîne ou de groupe même quand ils font de la qualité hein, c'est pas le problème est pas dans la qualité parce qu'il y a des groupes qui font des choses très très bien et qui arrivent à multiplier les choses en les gardant très très bien jusqu'à un certain niveau mais voilà c'était pas ça c'est que pour moi c'est un commerce de proximité donc déjà je voulais différencier les choses et après ben dans certains clients ben ils aiment plutôt tel produit alors pourquoi parce qu'on a fait une réunion de groupe eh ben on décide de mettre ce produit-là et on enlève un produit que peut-être une des boutiques aimait bien. Donc comme ça nous permet de nous adapter aussi à nos clients et d'avoir une singularité.
Et là, actuellement, entre tes deux boutiques, c'est quoi les 30% de différents à chaque fois?
Ah, il y a même plus que 30, là. Là, à l'heure actuelle, on est plus à 60-40. Alors sur la pâtisserie, on est quand même assez pareil dans le mimétisme, à quelques exceptions faites. Sur le traiteur, on a une singularité. Et sur le pain, on a une grosse singularité puisqu'on a un chef boulanger qui est amoureux de son métier, qui faisait des choses. Donc, on est en train petit à petit de mettre au point des choses qui vont plus ou moins s'embriquer. Et il y a des choses qu'on changera jamais. On garde une recette que lui a mis au point, qui est bien. À un moment, faut pas venir avec ses grands sabots et dire, ah, moi, je révolutionne tout. Non, on révolutionne rien du tout. À un moment, quand les clients, ils aiment un produit, je vais pas l'enlever. C'est pas parce que j'ai changé la boutique que je vais enlever. Non, on regarde, on fait des choses, je mets des choses au point, on essaye des choses. Si ça plaît mieux, la chose qu'on a mis au point, bah c'est super, elle remplacera une qui pour le coup se vend moins. Et inversement, quand un produit vraiment marche bien, on n'a même pas la vocation de le changer.
Enfin, c'est quoi un petit peu la durée, entre guillemets, de la phase de test, tu vois, pour se dire ce produit? Enfin, comment est-ce que tu juges que, justement, par exemple, tel nouveau produit, il a plu? Enfin, tu vois, en combien de temps tu te dis, ok, celui-là, il plaisait vraiment, donc...
Bon, c'est bien un mois et demi, en règle générale, oui. De toute façon, le client est le patron. Pour ce coup-là, moi, je suis... Il y a plein de produits que j'adore, qui ne trouvent pas leur clientèle. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons les produits, ça veut dire qu'ils ont pas trouvé leur clientèle. Donc, on passe quand même beaucoup de temps aussi avec la vente à expliquer, à essayer de mettre en avant. Si à un moment, toutes ces méthodes-là ne fonctionnent pas et que le client n'est pas réceptif aux produits, soit il est trop tôt, on peut le ressortir peut-être dans un an ou deux, parce que t'entends avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Hein. Très souvent, ça peut être le cas. On peut avoir des choses, des fulgurances. On se dit c'est génial, on l'arrête, ça marche pas, et on le ressort 2 ans après et ça fait un carton.
Ça,
Voilà,
ça t'est
parce que
arrivé, t'as un
ah oui,
exemple?
ça m'est arrivé. C'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ma vie. Non, mais vraiment, c'est l'histoire de ma vie depuis des années où je.
C'est quoi le dernier exemple? Enfin, en tout cas, l'exemple qui te vient en
Le
tête
plus
quand tu penses à ça.
concret, c'est, je vais reprendre un truc, c'est quand je suis sorti d'apprentissage. Donc c'est il y a plus de 20 ans. Je voulais absolument sortir, créer des pâtisseries sans sucre ajouté, sans sucre du tout. Vraiment des choses pour les diabétiques avec un ajout de fibres. Donc j'avais créé 5 sortes de recettes que j'avais fait tester en Suisse en laboratoire qui potentiellement nous montraient qu'il n'y avait pas d'indice glycémique qui allait monter, etc., etc. Quand je suis allé un peu démarcher, voir pour essayer de monter mon projet. Tout le monde m'a fermé la porte, m'a dit complètement fou, vous êtes fou, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce que les gens demandent, etc. Et ils avaient raison, parce que 1 ou 2 ans après, il y a quelqu'un qui avait fait ça, et
Ça
ça a
va marcher,
complètement fait un flop. Donc ils avaient raison, et maintenant il y en a d'autres qui ont fait ça 20 ans après, et ça marche du feu de Dieu parce que c'était le bon moment. Voilà, donc ils ont pas copié l'idée, ils ont eu l'idée, mais ils ont eu l'idée au bon tempo. Et cette question de tempo est vraiment importante, c'est-à-dire que t'entends, on sort la chose, on est sûr de soi, oui, ça marche, mais on est trop tôt.
Oui, puis en fait, à la fois, du coup, faut être à l'écoute de du marché au sens large, j'ai
Ah,
envie de
mais
dire, genre de
clairement, c'est
voir
la
où est-ce
sensation
qu'on en
client.
est. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, t'as aussi des fois, bah, ça va être la nouveauté, mais qui va prendre pour X ou Y raison, qui, comme tu le dis, aurait pu ne pas prendre. Mais tu vois, c'est pas parce que ça se fait déjà que,
Non.
enfin, que ça se fait pas du tout, que c'est pas, pas le
Non,
cas. Mais ouais, c'est ça, c'est
c'est juste que
vraiment.
c'est les bons tempos. En fait, c'est l'alignement des planètes. Hein. Il y a une part de chance. De toute façon, quand on fonde quelque chose, il y a toujours une part de chance aussi. Et il y a des gens qui ressentent le marché sur 10 ans. Et il y a des gens qui ressentent le marché sur 1 an. Et ben, ceux qui ressentent le marché sur 1 an, en règle générale, quand ils font des business, surtout dans des choses alimentaires, on a besoin d'un résultat immédiat. On ne peut pas fonder quelque chose sur une longue durée. On doit avoir un résultat immédiat pour rentrer dans nos affaires. Ben, c'est eux qui ont raison. Voilà, c'est eux qui ont raison. Et c'est une sorte de talent aussi. Hein. Il y a les créateurs qui sont, il y a des gens qui sont même des génies. Et il y a les gens qui malheureusement, ben, sont incompris, sont compris plus tard. Exactement comme dans la peinture où il y a des gens, des gens
Qui deviennent célèbres
qui
après
deviennent
leur
célèbres
mort,
après leur mort,
sont...
ben, il y en a certains qui ont des idées géniales, alors que pas forcément mon cas. Hein. C'est juste que j'ai souvent eu des idées qui je trouvais intéressantes et qui en fait ont été bien, mais qui
Mais
étaient
pas tout
trop
de
tôt.
suite, quoi.
Voilà, pas tout de suite.
Est-ce que sur des desserts, ça te l'a déjà fait, ou du coup, il y en a que tu retires du coup de la vente parce que actuellement il fonctionne pas, mais du coup, tu as envie quand même de le reproposer parce que tu es convaincu
Ah
que...
oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein.
Est-ce qu'il y en a un où, par exemple, en ce moment, enfin en tout cas ces derniers temps, où tu t'es dit celui-ci, je le garde en stock parce que... Et là, du coup, il est encore en stock et t'attends de le
Alors, il y en a
ressortir?
un que j'ai déjà testé en magasin, qui avait du mal à trouver son client parce qu'il n'est pas classique.
C'est quoi?
C'est un dessert avec un chocolat sur base de mucilage. Donc le sucre, c'est le mucilage, avec un crémeux à l'avocat. Et un croustillant au maïs et au piment. Alors, moi, je l'adore. J'adore ce dessert. On l'avait présenté pour le salon du chocolat où il a eu un franc succès, mais parce qu'on avait une clientèle plutôt initiée là-dessus. Et là, comme on a une clientèle qui est plus, j'ai pas envie de dire classique, mais qui a besoin d'être rassurée et qu'on est encore peut-être jeune aussi, en tout cas dans leur univers, Je pense qu'il y a toujours c'est un peu comme aller chez un pharmacien. À un moment, au début, le pharmacien, il fera pas changer les produits de l'ordonnance. Et
Oui.
par la suite, on a tellement confiance en lui, on sait qu'il va pas nous décevoir, et ben, ça va aller. Donc, celui-là, je le garde. Je pense que je le ressortirai dans un an, peut-être un an ou deux, suivant les boutiques, suivant les évolutions de chacune. Et voilà. Et c'est un dessert sur lequel je suis convaincu, mais c'est juste pas le bon tempo.
Sur ça, est-ce que justement déjà entre tes deux boutiques, entre celle de Neuilly et celle de Charenton, tu vois un peu une, comme celle de Charenton est plus récente, justement un truc de t'as une clientèle plus habituée maintenant à Neuilly et qui vient chercher d'autres choses
Ah
aussi?
oui, totalement. Neuilly, c'était vraiment une clientèle très 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 classique.
Ouais.
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont plus, hein. Ils le sont toujours, etc. Mais c'est vrai que des choses que je n'arrivais pas à
Tu peux,
vendre
ouais.
avant, j'arrive à les vendre maintenant beaucoup plus facilement. Ils nous font beaucoup plus confiance, ils apprécient les choses. Donc voilà, c'est génial. Après, on ne fait pas l'unanimité de tout le monde, ça n'arrive jamais. Mais c'est vrai que maintenant, on arrive à vendre des choses qu'on n'arrivait pas à vendre au début.
Mais ça, c'est toujours. Enfin, tu vois, je trouve avec tous les pâtissiers et pâtissières de boutique, c'était toujours enfin, le retour que j'ai eu. C'est d'abord, il faut faire tous les desserts classiques. Et ensuite, effectivement, tu peux proposer.
Mais
Enfin, il faut forcément
totalement.
un Paris-Brest, une tarte au
Voilà,
citron.
mais un Paris-Brest, on en a tous mangé un. Donc
Ouais.
c'est notre élément de comparaison. C'est normal que
Oui,
la
c'est clair.
personne, elle va consommer ça, elle va voir s'il est meilleur. Oui, maintenant il y a le flan aussi. Le
Ouais.
flan, ils mangent le flan, ils se rassurent avec ça, ils aiment le produit. Derrière, ils vont tenter
Ouais.
quelque chose d'autre. Petit à petit, ils vont aller dans l'originalité. Et après, c'est à nous de les accompagner, c'est à nous de leur demander ce qu'ils vont manger. C'est à nous de leur demander quel type de personnes ils invitent, etc. Sans être trop intrusif, mais à un moment, je pense que c'est exactement comme au restaurant, comme un accord. C'est pas nous qui faisons le repas, mais on
Oui,
participe
c'est
à
ça,
une
tu
partie
peux,
du
ouais.
repas. Et après, faut pas oublier une chose. En restaurant, on peut oser, on peut aller beaucoup plus loin, en ayant fait du dessert à l'assiette. Donc, je peux en parler vraiment parce que c'est un plaisir personnel. C'est égoïste. Quand on est au restaurant, on choisit son dessert pour soi. Et seulement pour soi, on ne le partage pas.
Oui, c'est clair.
Quand on arrive à une tablée, on doit plaire au maximum de personnes. Et à partir du moment où on a ce facteur maximum de personnes à plaire et à convaincre, forcément, on ne va pas tenter dans l'originalité. On va plutôt être sûr de prendre quelque chose où on sait que ça va toucher large. Sauf quand
Ouais.
on est vraiment avec des proches, très proches, qu'on connaît par cœur. Mais en règle
Mais
générale, on
même.
essaye
Oui,
de
puis.
faire plaisir à tout le monde, donc aussi bien à la mamie
Ouais, c'est
qu'à
clair.
l'enfant. C'est pour ça que c'est des desserts au chocolat. En règle générale, c'est ce qui marche le mieux. Une tarte au citron ou un Paris-Brest, parce que c'est des choses qui rassemblent un petit peu plus qu'un entremets avec l'avocat. D'ailleurs, je le
Oui,
faisais
c'est
même pas en
clair.
grand. J'avais
Oui.
aucun intérêt de le faire en grand.
Oui, c'est ça, parce que tu peux avoir le truc de t'amènes différents petits desserts et après. Souvent, tu veux goûter, mais comme tu dis, bon, c'est un petit bout, genre comme ça, au moins, si jamais t'aimes pas, c'est pas grave, genre,
Exactement.
c'est qu'un petit bout. Est-ce que justement, tu disais, on prend les desserts qu'on connaît pour se rassurer, genre, sur ces trucs-là, est-ce que d'ailleurs, pour toi, il y a un dessert où justement, toi, quand tu vas goûter, quand tu vas dans une nouvelle pâtisserie, tu dis, je prends ce dessert-là, comme ça, j'arrive à juger, justement, de est-ce que c'est bon, globalement?
Ah, moi, bien sûr, moi, il y a plusieurs produits que j'essaye.
C'est quoi?
Bah, en règle générale, la tarte au citron. Je la teste toujours. Parce qu'il y a tellement de techniques différentes entre la pâte.
Ouais.
Est-ce qu'il l'a bien cuite? Est-ce qu'il l'a isolée? En fait, c'est dans les petits détails qu'on voit la petite différence, quoi. S'il a mis un petit confit, s'il a essayé de jouer sur les taux de sucre, etc. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Donc, souvent, je consomme une tarte au citron à Paris-Brest. Ça me permet de voir aussi s'il a fait le praliné maison.
Ouais.
C'est bête, mais c'est des petites attentions en plus. Nous, on le fait à maison. Pour le coup, on commande des noisettes françaises. Quand on réfléchit nous-mêmes, enfin là, c'est plein de petites choses, mais qui nous permet en fait de le maîtriser de A à Z. Voilà. Et après, un croissant au beurre, très simple. Déjà, on voit beaucoup de choses avec ces trois produits-là. En règle générale, on sait à qui est derrière tout ça, quoi.
Ouais.
Si la personne est un passionné, si la personne est quelqu'un qui essaye de faire le travail au mieux, etc. Pas forcément dans l'esthétisme, attention. Hein. L'esthétisme, c'est pas l'importance la plus grande. L'intention dans le goût est plus importante que dans l'esthétisme. C'est beaucoup plus dur de faire bon que de faire beau. Beau, c'est facile. Beau, on colle dans la gélatine, on met des colorants à gogo, on fixe, etc. On fait de la photo dessus, super bien. Hein, mais voilà, faire bon, c'est extrêmement dur.
Oui, c'est beaucoup plus dur. Surtout sur, je trouve justement des desserts aussi, enfin, pas simples, mais c'est aussi classique. Justement, comme on a tous un référentiel,
Ouais, on
c'est
a tous.
encore
De toute
plus dur
façon,
à.
on fera jamais mieux que celui qu'on a préféré.
Oui.
Donc, de toute façon, faut même pas se mettre en concurrence. C'est comme la tarte aux pommes. Tarte aux pommes, on fera jamais mieux que sa mère ou que sa grand-mère. Enfin, suivant ses marqueurs ou que sa tante. On a tellement de marqueurs, donc on n'a même pas besoin de lutte. On peut même pas lutter, parce qu'il y a une valeur affective qui, en plus,
C'est
donc, à un
clair.
moment, autant y aller et donner sa perspective et sa manière de la voir, sans essayer de lutter avec des gens on peut même pas combattre.
C'est clair. T'as dit tout à l'heure que du coup tu fonctionnais avec des obsessions. T'avais eu le poivre, la vanille, et là c'était les agrumes. Ou du coup t'es toujours pas sorti de cette obsession
Non,
parce
toujours
que
pas. C'est trop
parce qu'on
large.
peut pas, on peut pas arrêter. À chaque fois, qu'est-ce que tu gardes une fois que t'es passé à une obsession suivante? Donc par exemple, de ton obsession sur le poivre, qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui? Est-ce que t'as, je sais pas moi, un top 5 des poivres que maintenant tu vas utiliser?
Ouais, bon, je garde toujours. Oui, il y a des choses après. Y a pas. J'aime pas faire des classements de produits parce qu'il y a des choses exceptionnelles et des choses qui sont très très simples ou qui sont même presque courants, mais en fait en les sourçant dans un endroit exceptionnel devient quelque chose de grandiose. Donc je fais jamais de classement. Par contre dans les des choses dans les accords où ça me fait tentant un petit peu aller plus loin, chercher des goûts différents dans les poivres, un vrai, véritable poivre des oiseaux, chose qui a été où la graine a été consommée par l'oiseau et on récupère dans les excréments. C'est un produit exceptionnel, mais il y a une récolte qui est minime.
Oui, bah
Mais
oui.
ils ont des goûts que je trouve fantastiques. Par contre, par exemple, je l'associerais moins dans la pâtisserie parce que je trouve que c'est pas lui rendre honneur. Je trouve que c'est un produit qui va il faut presque qu'il soit tout seul quoi. Quand
Oui.
je dis presque tout seul, c'est-à-dire que je vais prendre une banane et je vais mettre du poivre des oiseaux dessus qui va exalter le goût de la banane mais surtout qui va donner le maximum de ses saveurs. Et en fait, il y a plein de choses comme ça mais oui, ça m'a fait aussi découvrir les vrais poivres et les faux poivres parce que souvent on dit poivre timute, c'est pas un poivre en fait. C'est une baie type poivrée, mais c'est une baie. Et en fait, je me suis pas intéressé aux baies poivrées. Pour être exact, je me suis vraiment intéressé aux poivres. Parce que quand j'ai su que c'était des faux poivres, le terme faux, c'était mort. C'était fini, j'en voulais plus. Moi, je veux des vrais poivres. Parce que ce qui était intéressant, c'est que plus ou moins la même variété, ou enfin, en tout cas, le même type d'arbre, le même type d'arbuste, pouvait donner des déclinaisons aussi différentes. En ayant toujours la même racine, je trouve ça exceptionnel.
Ouais, c'est clair. Comment ça se passe quand t'as une obsession comme ça? Justement, tu démarres par quoi? Parce que là, tu disais, genre,
Ben,
j'ai
c'est
vu qu'il y
souvent des
avait les faux
rencontres.
poivres, ok?
C'est souvent des rencontres. C'est une personne que je rencontre et qui me présente un produit. Et après, je peux pas dire, c'est du feeling. J'accroche et quand j'accroche, je vais aller plus loin. Je vais chercher, je vais un petit peu comme un journaliste, hein. Mais c'est des choses qui peuvent me rendre fou. Hein. Vraiment. C'est de l'obsessionnel hein, à ce niveau-là où je vais vraiment chercher, 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 chercher.
Donc là, sur les agrumes, par exemple, c'était ta rencontre avec Damien Blasco.
Il en a fait partie. Ouais. C'est lui qui a été on va dire, le gros détonateur. Le gros détonateur. Mais j'avais déjà un gros intérêt dessus. Je m'intéressais déjà depuis plusieurs temps là-dessus parce que j'avais goûté deux, trois choses qui m'avaient vraiment intéressé. Mais c'est vrai que lui m'a donné une autre dimension, quoi. M'a fait grandir là-dedans et m'a fait découvrir des choses aussi. Donc forcément, derrière, il n'y a plus de filtre.
Quand tu dis t'as donné une autre dimension, c'est juste le côté producteur de comment, justement, comment ça se récolte, comment ça
Ouais,
pousse,
bien sûr.
comment
Le
c'est.
côté producteur, le côté production, le côté subtilité dans les choses, il m'a fait découvrir des choses et expliquer des choses qui sont maintenant pour moi même une logique, mais sur le coup, j'y pensais pas. Par exemple, de me faire découvrir le yuzu, mais en verre,
Ah oui.
et de l'utiliser en verre. Moi, pour moi, un fruit devait être mûr et que l'agrume, on pouvait le consommer aussi vert. Faut donner une autre typicité, un autre goût, un autre arôme. Et c'est des petites choses comme ça, en fait, qui étoffent notre chose. Et après, on va aller dans les surmaturations, on va aller dans les prématurations, on va aller à la maturation, voir ces nuances, voir ces choses qui changent. Alors, bien sûr, au quotidien, dans une boulangerie-pâtisserie, on sert, je sais pas moi, à peu près 1 200 clients, 1 300 clients par jour. Je peux pas m'amuser à avoir des produits à lui qui sont un petit fournisseur, etc. Même si je rêverais de leur faire découvrir ça. Il n'est pas, pour l'instant, ce qui n'est pas d'actualité, mais ce qui n'est pas impossible, qu'une fois on fasse une collab là-dessus, vraiment juste pour pendant le temps d'un week-end, parce que c'est que ça. Les gens veulent du quotidien, etc. Mais ces diversités, ces petits échanges et tout, font que ça nous conforte et ça nous rend pas accro, mais vraiment très intéressés. Il y a des gens qui sont intéressants. C'est ça. C'est pour ça que je dis souvent c'est une rencontre, parce qu'il y a des gens intéressants.
Ouais.
Il y a des gens que je trouve intéressants et qui nous font ouvrir les yeux et nous donnent envie de découvrir ce qui à eux les intéresse. Le poivre, c'est Gérard Vive, qui était un passionné, qui vendait ses poivres, etc. Et une fois, je l'ai vu un interview de lui et je l'ai trouvé passionnant. Et j'ai dit, mais pourquoi il est tant passionné par ça? Et c'est ça qui m'a amené à découvrir les choses. Exactement. Et en fait, ça a toujours été comme ça. C'est des gens que je trouve passionnants, parce qu'ils sont passionnés de quelque chose. Eux, ils sont passionnés d'un truc, peut-être pendant 30 ans ou 50 ans. Et moi, ça m'intéresse tellement que j'ai envie de comprendre pourquoi ils sont passionnés. Et en fait, tantôt j'accroche, tantôt j'accroche pas. Et voilà, sur ces produits-là, j'ai accroché.
C'est super intéressant, je trouve ça très fascinant, tu vois, d'avoir ce truc de « je veux comprendre ton obsession » et du coup, tu t'obsèdes aussi par
c'est ça. C'est sociologique, hein.
Ouais, bah oui.
Totalement. De toute façon, c'est notre métier sociologique, hein. Le partage, la transmission, c'est l'essence même de notre métier. Si à partir du moment où on n'a pas ça, notre métier, on peut pas le faire correctement. Mais nous, on n'invente rien. On a des recettes qu'on a eues de nos patrons d'apprentissage, qui eux-mêmes l'ont eu leur patron d'apprentissage, etc., vitam aeternam, et nous, on l'a fait évoluer comme notre patron, il l'a fait évoluer, etc. L'avocat, c'est Jérémy, on a parlé avec Jérémy Delval, c'est Jérémy qui m'a donné la recette de son truc à l'avocat, que j'ai changé parce que elle était très sympa, mais je voulais la mettre, la personnaliser à mon goût. Donc je lui ai donné, je l'ai changé, je l'ai modifié. Et sûrement qu'en la donnant à quelqu'un, il va aussi lui-même la modifier, et dans 10 ans, on la retrouvera dans un cahier de recettes de quelqu'un, et en fait, on saura même pas la genèse du produit, mais en fait, c'est venu de quelqu'un, au démarrage. Parce que moi, j'avais déjà travaillé l'avocat en amont, à l'école, parce que j'étais formateur pendant 10 ans, dans une école hôtelière, et je l'avais déjà travaillé, mais je l'avais travaillé sur d'autres formes, et pas de la manière à lui. Donc voilà, c'est que des échanges comme ça, c'est des voyages, c'est des rencontres. Échange et transmission, c'est vraiment les valeurs de notre métier qui nous permettent d'évoluer dans notre métier et de transmettre les choses au futur.
C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens?
Wow, pas du tout. Franchement, je m'en souviens.
À la première dont tu te souviens?
La première dont je me souviens. Franchement, la première dont je m'en souviens, je sais pas, parce que je pourrais pas dans le timing.
Oui.
Je me rappelle d'un qui m'a marqué. Donc j'ai fait 2 fois le championnat de France. Et c'est pas celui où j'ai gagné qui m'a marqué le plus, en tout cas le dessert qui m'a marqué le plus, c'est le premier, qui était un dessert autour de la pistache, donc pistache de la Bronte, et justement des agrumes et du yaourt. Et en fait, c'est quelque chose qui me touchait personnellement dans son goût, dans sa structure, etc. Je crois qu'elle racontait beaucoup mon histoire, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'acidité, de l'amertume, il y avait vraiment toute une histoire familiale qui était autour de ce dessert-là, et que j'aimais beaucoup. Et bon, j'ai perdu cette année-là, Dieu merci, entre guillemets, parce que j'ai jamais autant appris que cette année-là. Parce qu'on apprend beaucoup plus dans une défaite que dans une victoire. Une victoire, c'est un accomplissement, c'est génial, on est content, on est heureux, et le lendemain, on retrouve sa vie, entre guillemets, normale, même si ça chamboule un peu, parce que forcément, on a des projecteurs, etc. Mais en fait, le fait de pas gagner, j'ai pas envie de dire perdre, je préfère dire pas gagner, je trouve que c'est beaucoup plus juste. Le fait de pas gagner, en fait, ça nous remet en question. On apprend de ses erreurs, c'est connu. Et en fait, je trouve que j'ai beaucoup plus appris avec cette défaite qu'avec ma victoire.
Oui, c'est ça, parce que quand t'as dit du coup le lendemain, c'est vrai que le lendemain, quand t'as pas gagné, tu vas dire qu'est-ce qui manquait à ce dessert, comment je peux le retravailler, qu'est-ce que...
Alors, il y en a certains qui broient du noir. Moi, je suis pas dans mon état d'esprit, je suis pas... Voilà, j'ai perdu, on passe à autre chose, j'ai pas gagné, c'est pas grave. Et moi, l'année d'après, j'ai coaché une jeune avec qui j'ai des relations encore, qui est Morgane Rimbaud. Et j'ai compris mes erreurs, parce que je coachais moi-même et plus une élève à moi. Et en fait, j'ai divisé les choses, j'y allais pas dans la bonne optique, j'y allais vraiment pour un peu comme un revanchard. C'est pas du tout ce qu'il faut faire quand on fait un concours. Il faut y aller comme quelqu'un qui a envie de faire un concours, qui a envie de se surpasser.
Ouais.
Moi, j'étais pas dans cette optique-là. Donc, une mauvaise optique. Et l'année d'après, je me suis concentré à 100% à Van, qui a gagné. C'est la chose la plus belle que j'ai eue. Sa victoire, c'est vraiment la chose qui m'a donné le plus d'émotions dans notre métier, beaucoup plus que ma victoire à moi.
Ah ouais.
Bon, bien sûr. Ma victoire, j'étais heureux, j'étais content. Mais voilà, sa victoire, j'ai pleuré.
Parce que pourquoi?
Parce
qu'il y a le partage.
Il y a le partage, c'est un travail ensemble. On voit une évolution, on voit la personne qui grandit, on doute avec elle, on réussit avec elle, mais on perd aussi avec elle. Derrière, j'ai coaché beaucoup d'autres personnes. Tant on a gagné, tant on a perdu. Quand on a gagné, bah, j'étais ému et touché parce que voilà, je me dis que je les ai au moins un petit peu aiguillés. Mais quand ils perdent, je suis ravagé. Quand ils perdent, j'ai perdu. C'est même pas eux, c'est moi.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Enfin voilà. Et je trouve que ce partage-là, moi je suis très très collectif dans le travail, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'émotions à faire gagner. Que à gagner moi-même. Gagner moi-même, ça fait plaisir à mon entourage, moi aussi, hein. Mais quand un des candidats ou quelqu'un que j'aide gagne, ou quelqu'un qui réussit et que j'ai soutenu dans son travail, quand il réussit ou qu'il monte une affaire, etc., je suis très heureux, fier,
plus,
mais pas pour moi. Fier pour lui, voilà, je me dis, il est extraordinaire. Enfin, voilà, je vois les choses un peu différemment. Et je ne changerai jamais, hein. Je suis comme ça. T'entends, on va me dire, t'es fou, vrai que tu penses plus à toi. C'est vrai, mais c'est pas contrôlable.
Ouais.
C'est pas contrôlable.
Sur le deuxième championnat de France, celui où tu as gagné, c'était quoi justement la saveur qui symbolise ce championnat?
Eh ben, il y en avait plusieurs en fait. Et alors, il y avait une partie de mes obsessions. Et en fait, c'est un dessert où j'ai réuni, ça s'appelait Transmission. Où je réunissais justement plusieurs idées de goût ou de dialogue à de différents élèves ou de différents souvenirs d'apprentissage que j'ai essayé de réunir là-dedans. Donc il y avait de la noix de pécan, il y avait des agrumes, tellement, il y avait du yaourt. Toujours pour ramener, et c'est quelque chose que j'aime, j'affectionne beaucoup le yaourt. Il y avait de la vanille. Mais il n'y avait pas une vanille. Il y avait trois sortes de vanille différentes, avec des provenances différentes, pas forcément les plus attendues.
Alors,
non, il y en
avait
quatre, pardon. Mais j'avais sélectionné pour avoir des typicités de goût différentes. Donc il y en avait une vanille du Congo, en bio, qu'on connaît un peu moins, qui est plus fine, qui a des infusions un peu plus lentes normalement, mais qui ont des notes vraiment de biscuits, de cacao, etc.
Okay.
Il y avait la Tahitensi, la Tahiti. Alors elle, c'était juste pour vraiment l'arôme très, très vanillé, très fort, très puissant, qui est pas forcément celle que je préfère, parce que je trouve que c'est une vanille agressive. Mais elle plaît, en fait. Elle donne tout de suite le marqueur. Ensuite, il y avait une de l'île de la Réunion, parce qu'elle a des notes florales, elle a un échaulage au démarrage, et qui donne vraiment une typicité, une longueur, et des notes de fruits un peu pêche, etc., que je trouve vraiment intéressant. Et après, il y avait une de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était une sélection particulière, qui avait des notes un peu de tabac.
Okay.
Et que je trouvais vraiment très, un peu plus camphré, etc. Et je trouvais que, en mélangeant un certain dosage différent, je trouvais qu'on arrivait à une vanille qui vraiment me plaisait beaucoup. Donc, voilà, j'ai mélangé les vanilles. Et surtout, je les ai mélangés dans certaines préparations, c'est-à-dire je les ai pas toutes mélangées ensemble.
Okay.
Et j'ai fait des préparations avec des vanilles différentes pour vraiment qu'on les fixe et qu'on les sente vraiment.
Okay. Et pourquoi t'as appelé ce dessert transmission?
Bah, parce qu'on s'était c'était les choses qu'on transmettait entre nous.
Soit ce qu'on t'a
transmis et ce que moi j'ai transmis. Et en fait, il y avait une image. Quand on le voyait droit, normal, on s'en rendait pas compte, mais en fait, si on le positionnait sur l'assiette et qu'on regardait par le haut, si on apercevait une genre de flamme. Donc, parce qu'on transmet la flamme, et en fait, c'était le leitmotiv de ma vie, parce que j'étais dans la formation, donc je transmettais tous les jours, et je trouvais que c'était dans mes dernières années de formation, puisque j'ai fait encore un an, et après, je suis parti, et c'était déjà prévu que je voulais pas continuer dans la formation. Donc je me suis dit je vais transmettre encore ce dessert là, donc c'était histoire de boucler une boucle.
Et aujourd'hui, peut-être un peu à voir, tu vois, comment est-ce que... Aujourd'hui, comment elle s'incarne, ta transmission? Enfin, aujourd'hui, comment tu transmets? Et un petit peu, tu vois, avec à mettre en perspective avec justement quand t'es formateur, où c'est une transmission... Enfin, je sais pas, justement, comment... quel changement t'as vu dans toi, ta manière de transmettre entre quand tu crées au quotidien et quand t'es formateur?
De toute façon, moi, j'ai fait de la formation. C'est assez important de scinder les choses. Moi, j'ai fait tout à l'envers. Quand je dis tout à l'envers, c'est-à-dire que souvent, on commence son apprentissage, on va faire des grandes maisons tout de suite pour arriver faire des rencontres, etc. Ouais. Alors, je dis pas qu'ils ont raison ou que j'ai tort. Hein. C'est que moi, je suis juste différent. Moi, j'ai fait... Et après, on va aller petit à petit pour finir dans la formation. Moi, j'ai fait des maisons, des grandes maisons, des plus ou moins grandes. J'ai fait aussi des boulangeries-pâtisseries, parce que je trouvais ça intéressant. J'ai fait du restaurant, je trouvais ça intéressant. Et ensuite, j'ai dit, maintenant, je vais devenir formateur. Et j'avais 28 ans. J'étais okay. Hyper jeune, non qualifié, il faut dire, hein, parce que j'avais en diplôme, j'étais non qualifié. Mais j'y suis allé, j'ai enfoncé une porte... j'ai rencontré une école et je me suis toujours dit je ferai 2-3 ans. Pourquoi je suis allé dans la formation? Tout simplement parce que j'étais un mauvais chef, voilà, pour le dire. C'est à dire qu'un mauvais chef, c'est que je gueulais et les mecs à la fin ça me percutait pas, quoi. Ils faisaient pas ce que je leur disais et j'arrêtais pas de gueuler et ça continuait à pas faire. Donc à un moment on se prend un temps de recul, on se dit attends, si personne comprend ce que tu leur demandes, c'est peut-être que tu l'expliques mal. Pour mieux l'expliquer, il faut apprendre à apprendre. Et donc, je suis allé dans la formation pour ça, en fait, au démarrage. Okay. Pour déjà me faire redescendre de quelques étages et pour apprendre à transmettre les informations pour que les jeunes puissent les réaliser. Et après, j'y ai pris goût et je trouvais que c'était intéressant parce que, comme j'étais jeune, j'avais un certain dynamisme, j'avais une certaine vision moderne aussi des choses. Donc dans les classes, ça leur donnait vraiment une impulsion. Mais je me suis toujours dit que au moment où je m'amuserais plus, j'arrêterais. C'est-à-dire que je voulais pas devenir le prof aigri ou le prof qu'on a marre, parce que on est là avec une nouvelle génération de pâtissiers. L'image qu'ils ont, c'est d'un prof un peu fatigué. Y a pas envie. Alors il y en a certains à 50 ans, ils ont la pêche encore et ils sont exceptionnels, oui, mais c'est quand même pas tous. Souvent c'est des choses en fin de carrière où ils ont déjà usé la corde dans leurs entreprises ou en tant que chef, et ils arrivent un peu comme ça et ils sont déjà épuisés par le métier. Et qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux jeunes? Pas forcément la bonne méthode. Et donc je voulais pas, en tout cas moi à mon niveau, je sais que ça aurait fini comme ça et je voulais pas. Et donc, par la suite, j'ai transmis ma place à une de mes anciennes élèves qui a fait une continuité exceptionnelle et qui a même sûrement, qui fait maintenant même du meilleur boulot que moi j'aurais fait à son heure. Parce qu'elle, elle a encore cette jeunesse, elle a encore cette envie de transmettre où moi j'avais fait une boucle et où je sais que je voulais pas faire l'année de trop. C'est-à-dire que j'ai pris du plaisir jusqu'au dernier jour. Mais je savais que j'en reprendrais pas en rempilant une année et je voulais pas transmettre ça aux jeunes. Donc, je suis parti à ce moment-là. Et après, je suis allé de nouveau en entreprise. Donc, je suis retourné en entreprise donc pour un groupe de boulangerie-pâtisserie. Un groupe plutôt équipe, hein, parce que c'est aussi toujours dans le même état d'esprit. Et un jour, on a avec ma femme qui était dans la même entreprise que moi, on a dit, bon, c'est peut-être le moment de voler nos propres ailes et de commencer une nouvelle aventure. Donc, on a commencé ça. Donc, en règle générale, c'est pas trop ce qu'ils font. Souvent, on fait tout le cursus classique, on fait son entreprise, on fait 15 ans et après, on arrête et on finit souvent comme formateur. Et moi, je l'ai pas fait. Donc, et même quand j'ai passé mon championnat de France, j'étais aussi formateur. Donc, c'était complètement décalé. Il y avait personne qui était en formation, qui était formateur quand moi, je l'ai passé. Donc voilà, j'ai fait les choses un peu différemment. Et si j'ai fait tout ça, c'était vraiment pour apprendre à transmettre les informations. Et là, maintenant encore, la transmission, ça fait partie de moi. Et déjà dans l'image de Zest, c'est de comment je le transmettrai plus tard. Et c'est pas forcément mes enfants, parce que je pense pas qu'ils feront ça. C'est pas que je le souhaite ou que je le souhaite pas. C'est que j'ai pas du tout envie qu'ils soient associés pour le moment et leur imposer. Je préférerais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On a monté cette entreprise pour nous faire ce que nous on avait envie, mais pas pour l'imposer à quelqu'un de notre famille. Et peut-être je préférerais vendre tout pour qu'eux puissent faire des études, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie. ce que mes parents, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire pour nous. Pour moi, en tout cas. Et pour ma femme, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas pu, mes beaux-parents, ils n'ont pas pu nous faire ça. Donc, si maintenant, nous, on peut leur transmettre ça autrement, donc voilà. C'est plus dans cette idée-là, et peut-être de développer des jeunes talents que j'ai formés, soit en tant qu'apprenti,
Oui.
quand ils étaient des apprentis dans mon établissement, soit des jeunes que j'ai formés au sein de mon entreprise et qui ont une soif de l'entrepreneuriat et qui n'auront pas forcément le budget pour faire l'entrepreneuriat, donc de leur mettre leurs pieds à l'étrier de manière beaucoup plus facile et de les faire grandir et que les choses deviennent pérennes pour eux et que Zest continue à être transmis au fur et à mesure, quoi.
C'est très intéressant et je trouve que quand tu parles justement d'avoir réussi à prendre du recul, je trouve que c'est fort, enfin c'est difficile d'arriver à prendre du recul justement tu vois sur tout ça et se dire ben en fait ça marche pas. Est-ce que il y a eu un élément déclencheur à tout ça? Tu vois, un moment où tu t'es dit là justement, tu vois, il faut que je me remette en question.
Moi, il y en a plein des moments. Je pense que c'est pas que j'ai rencontré ma femme, etc. Et c'est vrai que je prenais vraiment beaucoup à cœur. Alors, je le prends encore un peu à cœur. Maintenant, moins, mais à l'époque, quand je les entendais gueuler, râler, etc., moi, je comprenais pas. Je faisais des heures pas possibles et ils étaient jamais contents. Alors maintenant, c'est toujours le cas. Ce sera toujours le cas de partout. Mais il faut, je pense, apprendre à prendre du recul et accepter de se dire que le chef, le patron ou autre, bah forcément, on va toujours être mal vu ou dénigré. Et je pense même que ça leur fait du bien. C'est un peu l'exutoire, ils en ont besoin. Et qu'à un moment, t'entends, il y a du réel qu'il faut savoir entendre. T'entends, tu dis, voilà, faut te remettre en question. Il dirait peut-être que je vais trop loin. Et t'entends, non, c'est pas toi qui vas trop loin, c'est eux qui comprennent mal. Et donc, en fait, avoir ce mix, là, j'aide beaucoup. Là, j'aide beaucoup. À 22 ans, on réagit comme un chien fougueux. Et ben, à 40, on est beaucoup plus mesuré. Et on commence à se dire, non, faut peut-être voir les choses autrement. Ce qui n'empêche pas de se dire, il faut me remettre en question, il faut se remettre en question. Il faut toujours se remettre en question. Mais il faut pas oublier aussi que les personnes souvent avec qui on travaille ont eux-mêmes du mal à se remettre en question.
Oui, on a tous du mal à se... Enfin,
on en a tous,
moins,
parce que c'est dur.
Ouais.
Parce que c'est dur, parce que de temps en temps, ça nous fait mal au moral, parce que voilà, mais moi, je garde toujours du truc, c'est que mon métier, c'est qu'un métier. Le jour où je prends ma retraite, je ne touche plus un fouet de ma vie. C'est un métier. Je le fais pendant un temps donné, et après, je ferai autre chose. Et dans ma tête, c'est vraiment ça. Souvent, les gens, ils disent, mon métier, c'est ma passion. Moi, c'est pas ma passion. Ma passion, c'est autre chose. J'ai eu une passion, et à un moment, il fallait choisir. Vivre de sa passion, ce qui est extrêmement difficile, voire plus ou moins impossible suivant les passions, ou vivre d'un travail qui nous plaît. Pas forcément qui nous passionne, mais qui nous intéresse. Où il y a plein de choses dedans qui peuvent nous passionner, comme les vanilles, la formation, etc. Moi, j'ai choisi la deuxième option, de faire un métier qui me plaît, dans lequel je sais que je pourrais m'épanouir professionnellement et humainement, parce que forcément, et le jour où je peux arrêter mon métier, je reprends ma passion pour être qu'une passion. Parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je faisais quelque chose qui était vraiment de la passion, et en fait, j'avais du mal à commercialiser cette passion. C'est-à-dire que pour moi, je peux pas donner un prix ou parler argent sur quelque chose qui n'a pas vocation à être vendu, qui est plus de l'artistique, parce que c'était un métier artistique. Et à un moment, j'arrivais pas parce qu'à un moment, quand on parle d'argent dans le truc artistique, j'arrive pas. Je vais reprendre l'exemple de la peinture. Picasso, il a jamais été aussi mauvais que quand il savait que son art, il arrivait à le faire en 15 minutes. Je trouve que tout ce qu'il a fait avant est exceptionnel, ce qu'il a fait après est surcoté. Et c'est exactement ça, c'est qu'à partir du moment où on arrive à faire du commerce sur son art, moi j'ai toujours un peu de mal. Je trouve que l'artistique ne doit être séparé de l'argent.
Artistique et argent, ça marche
pas. Ça marche pas. Pour moi, c'est pas en adéquation. Le meilleur exemple, c'est si maintenant on me demandait d'acheter la Joconde, elle a pas de prix.
Ouais.
Voilà, aucun prix ne pourrait être le bon prix. Donc, c'est là où on voit les choses. L'artistique n'a pas de prix. Donc, je voulais pas faire de commerce là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans un métier qui me convenait.
Alors, comment t'as choisi ce métier?
Merci. Là, que tous les chefs pâtissiers se bouchent les oreilles. Moi, j'ai pas fait de gâteau avec ma grand-mère, ni avec ma mère, qui cuisinait pas beaucoup, beaucoup. Elle cuisine un peu, mais en tout cas, pas quand j'étais petit, j'étais pas dans ses jupons. Ma grand-mère non plus, elle faisait de la pâtisserie, elle faisait des choses, mais j'avais pas de relation spécifique avec elle, donc j'ai pas fait. Moi, c'est tout simplement un jour, on m'a dit, Cyril, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je crois que je devais avoir 13 ans. J'ai dit pâtissier. Mais j'ai dit ça, j'aurais pu dire boucher, j'aurais pu dire informaticien, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit pâtissier. Comme je suis con et têtu, je me suis opté là-dessus. J'ai dit un jour, j'ai dit ça, faut que je
Du coup, je
garde
le
ce
fais.
métier. Heureusement, ça m'a plu. Ça m'a intéressé en tout cas,
Ouais.
parce qu'il y avait quand même un. Mais franchement, c'est. J'ai dit ça,
C'est
mais
sorti
c'est
au
sorti,
hasard.
mais au hasard total. J'avais personne dans ma famille qui faisait ce métier, personne qui était dans la gastronomie, rien du tout, hein. Zéro contact, enfin voilà. J'ai vraiment dit ça, j'aurais pu le sortir. Je pense que beaucoup de chefs, c'est la vérité, c'est aussi ça. Mais c'est plus joli de dire dans les jupons de sa grand-mère, on faisait des trucs, elle nous faisait lécher la gamelle. Moi, je vais pas raconter des histoires. La vérité, c'est que j'ai dit ça un jour, je m'y suis attelé. Comme je pouvais partir rapidement de l'école en faisant un apprentissage, ben je me suis barré le plus rapidement possible parce que je détestais apprendre pour apprendre, je voulais apprendre pour comprendre, et l'éducation nationale n'était pas faite pour moi, entre guillemets, c'est pas une question de niveau, hein.
Ah ouais, je vois.
J'avais pas un mauvais niveau scolaire, c'est juste que j'apportais pas d'intérêt à apprendre pour apprendre. Moi, je voulais comprendre les choses, je voulais pas les apprendre.
Ouais.
J'ai été en école Montessori au démarrage. C'est vrai que ça décale beaucoup quand on revient après dans un cursus plus ou moins classique. Ça change un peu les choses. Donc, ouais. Et d'ailleurs, quand j'ai été formateur, je leur faisais pas apprendre pour apprendre. Je leur faisais apprendre pour comprendre. Moi, tant qu'ils n'avaient pas
Ouais.
compris, ça servait à rien. La note, elle ne servait absolument à rien. J'avais vraiment un système un peu hybride. J'avais une direction qui me suivait, parce que les résultats suivait et les élèves étaient contents et on avait des bons résultats et une bonne réputation là-dessus. Mais voilà, j'ai toujours été comme ça. Donc c'est la pâtisserie quand j'ai dit ça. Après, j'ai réussi à avoir un apprentissage, etc. Donc je savais que j'allais pouvoir me faire partir rapidement de l'école. Donc je me suis engouffré dedans. C'était un métier où il y avait du travail. Enfin, il y avait plein de facteurs qui étaient cool pour pouvoir vite bosser, vite gagner sa vie. Revenant en arrière, je le ferai pas. Je pense que je ferais des études
Ok.
et je ferais peut-être un autre métier qui serait moins éprouvant, physiquement parlant. Mais voilà, je l'ai choisi, je l'assume, je le vis pas mal, hein, parce que c'est quand même vachement intéressant, mais je vois que plus les années passent, plus c'est difficile. C'est un métier qui est vraiment difficile. Quand je vois, j'ai un chef à moi qui a plus de 50 ans. Et j'ai un employé aussi là qui est en arrêt maladie parce que il a des problèmes d'arthrose et que je les vois comme ça être dans la douleur, je me dis mais pff, quel
Ouais,
courage,
c'est compliqué,
mais
ouais.
quel courage, mais quel courage. Est-ce que j'arriverai? Mais vraiment, je me demande vraiment ça. C'est des gens courageux. Il faut du courage. Et plus les années passent, plus c'est difficile. C'est des métiers où on est usé. Hein. Tous les métiers de l'alimentaire, c'est vraiment des métiers où on est usé. On est usé et il y a des métiers qui sont pas moins durs, parce qu'il n'y a pas de métier facile, mais qui nous usent moins physiquement.
Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Je trouve que t'as beaucoup la distinction finalement entre les métiers manuels
Ouais,
et les métiers plus intellectuels. Ou, enfin, du coup, t'as
plus
moins ce
cérébral.
truc. Oui, c'est ça. Mais où, du coup, t'as
Moi,
moins
j'aime
cette
bien
fatigue
dire, nous,
physique,
on a
comme tu dis.
l'intelligence des
Ouais.
gestes, eux, ils ont l'intelligence des mots ou l'intelligence
Ouais.
des nombres. Donc voilà, c'est les trois grandes familles de métiers. Intelligence des mots, intelligence
Ouais.
des gestes et intelligence des nombres. Voilà, ça c'est les trois familles de
Oui, c'est
métiers.
clair.
Et l'un n'est pas plus dur que l'autre, l'un n'est pas plus facile que l'autre. Il y a juste que
Oui, non, c'est
un
clair. Bah,
nous épuise
c'est
physiquement
différente, ouais,
plus
c'est ça.
et l'autre nous épuise nerveusement plus. Voilà, nous c'est physiquement, ça nous épuise et les autres métiers c'est nerveusement, ça nous épuise. Donc voilà, mais je pense que j'en vois quand même beaucoup plus d'abîmés par le physique. C'est vrai que notre climat actuel et on a quand même des possibilités dans d'autres métiers de pouvoir se vider l'esprit et de pouvoir changer. Nous, quand on est usé, on est usé. On peut pas. Donc on essaye de maintenant d'acheter du matériel qui permet d'être beaucoup plus tranquille. Donc c'est ce qu'on essaye d'investir petit à petit. J'essaye d'investir dans du matériel qui va faciliter le travail. Mais c'est extrêmement difficile et on sait qu'on va être usé. On se lève en décalé, voilà,
Ouais.
c'est pas à refaire, je sais pas. À refaire, je
OK.
sais pas. Pour pas forcément beaucoup d'argent, hein. Parce qu'à un moment, faut pas se leurrer, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais je dis ça, mais je suis presque sadomaso parce que en montant mon entreprise, je gagne pas beaucoup, je gagne pas plus d'argent, je gagne peut-être même moins. C'est juste que je rends des comptes à moi.
Oui.
C'est juste des plaisirs personnels et je développe des gens.
Oui,
Voilà, et
ça,
je
tu
nourris
crées
des
quelque
familles.
chose d'autre,
Enfin,
ouais.
qui se nourrissent eux-mêmes, parce que c'est le fruit de leur travail qui les rémunère. Mais voilà, on participe à une équipe, à un peu une famille, quoi. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et quand je dis non, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit tu dois dire non. Si j'ai envie de dire
Ouais.
oui, je dis oui. Voilà, c'est moi qui décide.
Ça s'est un peu imposé à toi, le avoir ta propre structure, enfin en tout cas avoir.
Ma femme en voulait vraiment, voulait plus travailler pour quelqu'un. Elle en avait vraiment. Moi, personnellement, je pense que j'aurais gagné plus d'argent en étant consultant. Je pense que j'aurais mieux vécu, plus
Ouais.
simple, etc. Mais quand on a une femme qui est dans le métier, ce qui est déjà assez rare, qu'on aime ce métier aussi, hein, paradoxalement, on l'aime quand même, hein, le métier. Hein. Et que, ben, à un moment, on se dit, c'est une histoire à deux. Ben, on oublie tout, quoi. Les heures, le travail, le confort. On l'oublie parce qu'on se dit, c'est quand même génial de pouvoir faire une aventure à deux, et d'emmener des gens avec nous. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi depuis des années, qui m'ont rejoint dans
Ouais.
l'aventure aussi. J'ai énormément de gens qui nous ont rejoints et avec qui on a travaillé depuis des années. Donc, ça nous permet aussi ça. Donc, ça permet de développer et d'avoir des gens qu'on aime bien, les aider à se développer aussi pour les plus jeunes. Et donc, voilà, c'est top.
Pour boucler un peu, je trouve, toute cette boucle, quel conseil est-ce que tu donnerais au Cyril, justement, qui commence dans ce métier et, tu vois, avec du recul, un conseil, soit un bon conseil qu'on t'avait déjà donné à l'époque et où tu dirais, genre, vraiment, écoute ce conseil parce que c'est génial, ou un conseil qu'on t'a pas donné, que tu voudrais donner, et qui peut aussi, tu vois, être un conseil un peu plus général, qui peut s'appliquer à beaucoup de nouveaux pâtissiers ou
Bah,
pâtissières.
je pense que les conseils, j'en ai eu plein. Certains, je n'ai pas écouté, mais je les ai toujours écoutés par la fin. C'est-à-dire que un conseil utile, je l'ai toujours utilisé. Alors, de temps en temps, un peu tard.
Ça, je trouve que ça boucle parfaitement avec ce que tu disais au départ de finalement des fois quand on fait un dessert, c'est
Mais
pas
c'est exactement la même chose. Mais c'est exactement la même chose. C'est
le
tant,
moment.
tant, mais c'est exactement la même chose. Puisque c'est une relation.
Ouais.
C'est, par exemple, je vais donner un exemple très bête. On quitte sa petite amie ou son petit ami. Au début, on est dévasté. 10 ans après, on se dit, mais
Oui.
pourquoi j'étais dévasté? C'est juste que, à cet instant T, c'était pas le bon moment. Et
C'est
de temps en
clair.
temps, quand une rupture, elle se fait de manière très simple sur une durée, et qu'à un moment, on arrive au bout, et qu'on se sépare, ça devient un soulagement. Alors que si c'était passé un an avant, ça aurait
Ouais,
été un
ça aurait.
déchirement. Donc, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai reçu plein de conseils. Franchement, j'en ai reçu plein. Certains, je les ai écoutés parce qu'ils étaient censés tout de suite, pour moi en tout cas. Certains, je les comprenais pas. Je les ai compris plus tard. Mais je pense que le meilleur conseil que j'ai eu, et je l'ai eu d'une manière même un peu dure avec moi, c'est n'aie pas peur de l'effort. Et je pense que c'est ce qui résume le plus et dans tous les métiers. Hein. Dans tous les métiers. C'est-à-dire que tantôt on est fatigué, on en a marre, on aura envie de bâcler, ou mettre sous le tapis un peu et se barrer. Oh, ce qui veut pas dire que je ne vais pas, mais à la maison. C'est-à-dire que
Ouais.
une fois que je suis à la maison, je suis plus du tout le même qu'en entreprise, hein, parce que j'ai pas envie. Je suis au bout. Mais souvent je disais, va plus loin, va plus loin, parce que c'est la seule chose qu'on peut pas transmettre en fait, c'est l'effort, la soif de l'effort, ne pas avoir peur d'aller plus loin. C'est-à-dire que tantôt quand on est plus fatigué, vraiment fatigué, et qu'on va venir et qu'on va encore faire ce dernier effort pour que ça se passe bien le lendemain. Même si le lendemain, ça va être encore dur et on va encore. Ouais. Mais à partir du moment où on a passé ce cap de se dire, je peux repousser ma limite, Bah, on ne le fait pas pour son patron, on ne le fait pas pour son chef, on le fait pour soi. Si on se dit, ah non, je ferai demain, c'est fini. Dans notre métier, dans tous les métiers d'ailleurs, c'est fini. Parce qu'après, le lendemain, il y a un autre truc qu'on dit, on fera demain, etc., etc. Et à la fin, en fait, on passe son temps à regarder sa montre. Parce qu'on n'a pas envie de bosser. Et on voit le temps passer. Et on se dit vivement que l'heure, elle arrive pour que je puisse partir. Mais en fait, si on regarde dans son efficacité, et qu'on se prend en arrière et qu'on se dit, regarde ce que j'ai fait, ben on se rend compte qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose dans sa journée. Donc vraiment, cette soif de l'effort, je pense que c'est bien parce qu'au moins, on se dit toujours, ouais, je peux le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire tous les jours. Mais de temps en temps, quand il y a un petit peu de travail, montrer aussi, ouais, moi, je peux le faire. Je peux le faire, je vais le pousser. Je ne vais pas me dire, oh, ben non, c'est bon, l'autre, il avait qu'à le faire. Ou, non, je vais le faire. Je vais aller plus loin que mon envie. Et je trouve que c'est un peu le principe aussi, je crois que c'est dans la culture chinoise ou japonaise, où ils vont arrêter de manger avant de plus avoir faim. Bah, c'est la même chose, c'est inversé, quoi. On va continuer, même quand on est fatigué, quand on n'a plus envie. Mais bah, on va se dire, on va faire juste le petit curseur en plus pour montrer qu'on peut le faire. Et voilà, bah, ça c'est un conseil que mon patron d'apprentissage m'a donné. Mon chef aussi m'a donné. Et on l'a fait un peu forcé, je veux dire, quand on faisait vraiment des horaires très très difficiles. Mais quand je dis très difficile, c'était extrême. Une autre époque, une autre culture, une autre région aussi, parce que j'étais en Alsace, c'est un peu une différence aussi, une culture un peu. Voilà. On nous a forcé un peu à le faire. Franchement, jamais de la vie, je le blâmerais. C'était un patron en or. Il était génial, il était reconnaissant, etc. Ça a été très dur, sûrement trop dur. On ne pourrait plus le faire maintenant. On fait même pas la moitié maintenant. Mais après, c'est un peu. Tout glisse. Tout est facile.
Du coup.
Ben ouais, je suis arrivé à Paris, on me disait, Paris, tu vas voir, ça travaille à fond. J'ai jamais aussi peu travaillé quand je suis arrivé à Paris. Pour moi, c'était, mais je trouvais que. Il n'y avait pas de boulot, quoi. Parce qu'on allait. J'étais tellement un extrême en apprentissage qu'en fait, tout passait facilement. Et donc, c'est là où ça en revient. Et t'entends, c'est dur, parce que t'entends, on n'a plus envie et tout. Et on peut vite aller à l'échec. Hein. C'est-à-dire, faut pas dire parce qu'une fois on a réussi à aller plus loin, de pousser ses limites, que le lendemain, on va le faire. Et à partir du moment où je pense que, autant ça, on doit l'entretenir au quotidien. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus dur avec l'âge. Autant qu'une fois qu'on a passé le cap inverse, je pense qu'on n'arrive plus à pousser les limites. Je pense que c'est déterminant. C'est un moment où on s'effondre. Donc, l'importance de ça, c'est un conseil extrêmement important. Mais c'est vraiment le conseil que je donne à mes élèves aussi. Pousse tes limites, pousse ton curseur, va plus loin que ta fatigue.
Oui, puis être, enfin, en fait, c'est aussi être capable soi-même de se dire, genre, quelle charge je suis capable de, enfin, savoir connaître en fait soi-même ses limites, quoi. Ça permet de se connaître tout simplement. Et ben, c'est très intéressant, c'est super riche et enfin, je trouve qu'il y a plein aussi de grands conseils de. Enfin, c'était très très chouette. Merci pour tout ce partage. Et pour terminer, je voulais te proposer de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais un de tes desserts, tu serais lequel?
Un de mes desserts, je serais plutôt un croissant. C'est paradoxal, hein, mais j'aime bien. Je trouve que c'est tellement simple. C'est un élément, juste une manière de rouler, une bonne cuisson, je trouve ça tellement bon.
Simple, mais si
Simple
compliqué
et
pour qu'il soit
si,
très
ouais,
bon.
très bon et tellement efficace.
C'est quoi le dernier agrume que tu as découvert et aimé? Le dernier en
Je pense que
date.
c'est le Cedra Diamanti. Et un agrume exceptionnel.
C'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit waouh, j'adore l'idée, j'aurais bien aimé y penser.
Eh ben, c'est un dessert qui faisait le miel au Shangri-La Michel. Et franchement, quand je l'ai mangé, je pense que c'est un des desserts qui m'a mis la plus grosse claque de ma vie. Il y a longtemps, hein, parce qu'il était encore au Shangri-La à l'époque. Et j'ai trouvé ça exceptionnel.
C'est quoi ton péché mignon?
Oh, les conneries, les bonbons, les chips, enfin tout ce qu'il faut pas. tout ce qui est en règle générale classifié entre D et E. Voilà.
Et est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues?
Alors, il y en a plein. Il y en a plein avec qui j'aimerais faire des quatre mains. Déjà, il y a Jérémy avec qui on va en faire un. C'est prévu. Il y a Morgane Rimbaud. Il y a Marine Mathéos. Enfin, j'ai plein d'anciens élèves. Valentin Sevilla. Enfin, j'ai plein d'anciens élèves avec qui je rêverais de faire un quatre mains. Je pense que ça se fera. Je pense vraiment que ça se fera parce que on peut pas en rester là. Et je trouve que les boucles sont bouclées là-dessus. Il y a Damien Gendron aussi, qui est champion de France en 2016. On a une grande famille de champions avec qui on s'entend vraiment bien. François Josse. Il y a ceux avec qui, entre guillemets, on a fait des quatre mains sans le vouloir. Parce que on s'est repris des choses, etc. Donc ouais. C'est déjà des pseudo quatre mains, ou c'est des petits hommages, des petits clins d'œil. Ouais, il y a plein de gens. Moi, j'adore partager. Donc, les quatre mains, je trouve ça tellement sympa. Je pense que d'abord, il faut qu'on structure bien les choses. Mais je pense qu'après, ouais, si je peux en faire, on peut en faire plein. Hein, même si ils font des quatre mains sans moi, même. Hein, deux potes ensemble qui ont envie de faire un quatre mains et qui veulent qu'on le commercialise. Donc voilà, l'histoire est trop cool, quoi. Ici, c'est une maison. C'est un centre de loisirs.
Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt yuzu ou bergamote?
Oh, bergamote.
Saveur d'été ou saveur d'hiver?
J'ai envie de dire hiver quand même.
Oui, il y a les agrumes.
Ouais, il y a les agrumes, mais l'été aussi, il y a quand même beaucoup de produits que j'aime bien. Mais hiver, hiver-printemps.
Herbe ou épice?
Épice.
Laquelle en particulier?
La vanille.
Et laquelle en particulier?
J'ai un gros coup de cœur sur la vanille de l'île de la Réunion.
Ok.
Je trouve que c'est un produit qui est exceptionnel. Et en fait, on va en chercher aux quatre coins du monde. Et je pense que c'est l'une des meilleures, au moins en tout cas. Mmh.
Chou ou tarte?
Oh, tarte.
Et enfin, plutôt ton dessert autour du popcorn ou celui dont tu parlais tout à l'heure, le nawa et mousse au chocolat et vocaux.
Voilà, faut pas me demander ça. Les deux ensemble.
Un mélange des deux,
on coupe une demi par chacun.
Très bien. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit une recette à goûter, un ingrédient à tester, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer?
Ils doivent refaire une recette?
Bah, c'est ce que tu veux. Soit travailler un ingrédient, goûter, je sais pas.
Travailler le yaourt.
Ok.
Le yaourt grec, ou alors le skyr. Faites-vous plaisir, mettez des épices, utilisez en sucré, en salé. C'est un produit trop souvent peu utilisé, et c'est tellement bon, et en fait il n'y a pas besoin de grand chose avec, et n'hésitez pas à mettre du poivre sur les fruits, ça décuple les saveurs, vous verrez que d'un coup votre poire qui n'est pas bonne, un coup de moulin à poivre et elle n'aura plus la même dimension.
Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro?
Ben, ceux qui me connaissent, ils savent déjà que je vais dire Morgane Rimbaud.
Elle est déjà passée.
Elle est déjà passée?
Ah oui, plusieurs.
Ah là là. Et elle m'a pas cité.
Non, je ne demandais pas encore.
Ah, parce que...
Pour sa défense.
Je veux faire. Qui est... Il y a tellement de gens que j'aimerais entendre parler. Je pense que quelqu'un qui serait vraiment intéressant, pour le coup, et qui serait différent, c'est Valentin Sevilla.
Ok.
Qui est un jeune que j'ai eu un peu en formation, qui a été le second de Quentin Le Chat. Et je trouve cette personne extrêmement intéressante.
Très bien, bah je vais le contacter. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour clore cet épisode?
Faites-vous plaisir. N'oubliez pas de travailler avec vos artisans de quartier. C'est extrêmement important. Et ne vous complexez pas, mangez ce que vous avez envie, personne n'a le droit de vous juger.
Merci beaucoup, et vraiment merci beaucoup pour cet échange, c'était passionnant.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Louise Tampin. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @lea_rvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt !